Et ces personnes vont ressortir, inshallah, grandies de ces majalis, de ces assemblées. Avec des versets qu'ils ont compris, des versets qu'ils vont retenir, inshallah, le sens. Parce que le but également, c'est de le retenir. Quand on écoute, mais on essaie quand même de retenir ce qui est dit, retenir le sens, dans le but de mettre en pratique, et également dans le but d'améliorer la qualité de nos, qui complète, de nos prières, de nos salats, de nos actions, certainement. Parce que plus on connaît les versets, plus on connaît Allah d'une certaine façon. Plus on connaît ses ordres, on connaît ses interdits, plus on connaît ce qu'Allah attend de nous. Donc effectivement, quand on a plus de ilm à ce propos, ben ça se ressent dans la qualité de nos a'mal, bien. Mais également améliorer la qualité de nos salats. Parce que maintenant, si une personne, hein, ce soir il y a 13 versets qu'on va essayer de voir, si une personne maintenant demain à Salat al-Fajr entend le imam lire Idha Shams Kuwirat, il va se rappeler du sens de chaque partie de ces ayats, de ces versets, et il va méditer sur le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal, et assurément il y aura la dévotion, la concentration qui vont s'installer dans le cœur. Et ça, c'est une des réponses qu'on donne aux nombreuses personnes bien intentionnées qui posent cette question. Pourquoi bien intentionnées? Parce que les seuls qui posent ce genre de questions, ce sont des gens sincères et bien intentionnés. La grande question, c'est comment trouver la concentration dans la salat. Quand on entend les vertus de la salat, quand on entend ce que la salat nous apporte en termes de spiritualité, comment cela nous rapproche d'Allah Azza wa Jal, comment cela nous éloigne du turpitude et du blâmable, et que je me rends compte que mes salats sont vides de sens. Mes salats, dans mes salats, je n'ai aucune concentration, aucune dévotion, que je ne ressens aucun changement dans ma vie après ma salat accomplie, pourtant en congrégation, en jama'a, au premier rang, avec toutes les conditions réunies. Mais malgré ça, quand je reçois de la masjid, le cœur est aussi vide qu'avant d'entrer dans la masjid. C'est qu'il y a un réel problème. Il y a un réel problème, alors que c'est la même salat accomplie par les sahaba, les mêmes versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lisait dans la salat. C'est que nos cœurs ne se connectent pas avec Allah durant la prière. Un cœur qui est vide, déjà un cœur qui en temps normal, c'est-à-dire en dehors de la salat, dans la vie de tous les jours, ne pense jamais à Allah. Comment voulez-vous qu'en 5 minutes, il établisse une connexion au débit direct? Excusez-moi la métaphore, elle est bête, hein. Vous n'avez pas de modem, vous n'avez pas de wifi, vous n'avez même pas un câble Ethernet, rien du tout. D'accord? Tout d'un coup, vous voulez établir une connexion en 2 minutes. Et non, ça se prépare, il faut quand même avoir une préparation pour ça. Il faut avoir ce qu'il faut. La métaphore est un peu éloignée, excusez-moi. Mais une personne qui, de toute la journée, ne pense jamais à Allah. Et quand on dit penser à Allah, ce n'est pas uniquement le dhikr. Certes, c'est le dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Astaghfirullah, le tahlil, la ilaha illallah, salatu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Tout ça, ce sont des adhkar. Plus on va faire le dhikrullah, plus il nous sera aisé de nous concentrer dans la salat. Parce qu'un cœur qui s'est habitué toute la journée à penser à Allah, quand vous lui dites maintenant, établis la connexion maximale, il y a que déjà on a les petits appareils qui nous permettent d'avoir une connexion de qualité moyenne. Mais encore, on a de quoi pouvoir, mashallah, établir une connexion. Quand on commence à salat, ce cœur est déjà habitué à faire le tasbih d'Allah Azza wa Jal, le tahmid, le takbir d'Allah. Donc, quand on va démarrer la salat, il y aura une étincelle qui va naître et la concentration, inshallah, viendra. Donc, on dit que quand on dit penser à Allah, c'est le dhikr, mais c'est également, d'une manière générale, le muraqabatullah. Le muraqabatullah, dans le sens propre, dans le sens shari, c'est avoir une pensée permanente d'Allah dans le cœur. Il n'y a que dans n'importe quelle situation de ma vie, à n'importe quel moment, à n'importe quelle occasion, je pense toujours à Allah, je n'oublie jamais que Allah Rabbul Izza est au-dessus de moi. Il m'entend, il me voit, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Allah voit le moindre fait et geste. Ce qui fait que le croyant qui développe la pensée d'Allah en permanence dans son cœur, muraqaba, ça vient de raqaba yuraqibu, surveiller. Être conscient qu'Allah est au-dessus de nous, il nous voit. En guillemets, nous surveille. Ce qui fait que jamais je ne commettrai un péché délibérément, volontairement. Jamais je ne négligerai, inshallah, un péché volontairement. Si dimanche, l'heure de Fajr, d'accord, mon réveil sonne à 4h50, quelle heure sera-t-il? 5h? 5h05? 4h50, hein, suffisamment tôt pour me préparer, mes ablutions et venir. Et je me dis, Yallah, aujourd'hui c'est dimanche. Allah va me pardonner. Dieu m'a dit, aujourd'hui c'est dimanche. Je ne travaille pas, donc je vais me reposer. J'éteins le réveil, je dors. Péché grave. Péché d'une gravité énorme. Maintenant, si je suis un croyant qui pense à Allah tout le temps, qui a la crainte d'Allah en permanence dans mon cœur, jamais je ne ferai ça. Parce que je sais qu'à ce moment, Allah m'observe. Et Allah sait que je dois faire face à un dilemme. Le dilemme, c'est quoi? J'écoute soit mon cœur, soit mon Rabb. Quand vous avez à choisir entre votre cœur et votre ilah, qui vous choisissez? Mon cœur, il me dit quoi? Reste dans le lit, d'accord, les oreillers, le matelas, la couette, parce qu'il y a la clim, reste avec madame, et ainsi de suite. Et voilà, tu es bien là. Là, tu vas sortir, tu vas marcher, tu vas descendre les escaliers, puis tu vas revenir à la masjid, tu n'auras plus sommeil. Donc, non. Le cœur, il te dit, profite, enjoy du confort. Allah, Rabbul Izzah, te dit, haya, par le biais du muadhin, le message qui est passé, c'est haya al-salah, haya al-falah. Venez vers la salah, la prière, venez vers le succès. Succès pour toi, ô croyant de ce dunya. Protection pour toi dans la tombe. Succès pour toi le jour de Qiyam. Honneur, izza pour toi dans le Jannah. Allah Azza wa Jal sait que dans mon cœur, il y a ce dilemme. Maintenant, si je ne suis pas conscient qu'Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur, Allah m'observe et m'entend, je vais choisir d'écouter mon cœur, malheureusement. Mais si j'ai ce degré de iman qui fait que je suis conscient qu'Allah m'écoute, m'entend, comme on a expliqué, assurément je vais obéir à Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est magnifique ce choix-là. Le plus beau choix qu'un homme puisse faire, c'est quand il a la possibilité de choisir entre le bien et le mal, obéir à ses shahawat, ses pulsions, ses hawa, ou obéir à son Rabb, son Seigneur, et que personne, à part Allah, ne le voit. Personne ne sait ce qui se passe et qu'il obéit l'invisible. Il obéit Allah, celui qu'il ne voit pas. Il obéit son Seigneur. Ça, c'est magnifique. Parce qu'il vient de déjouer les plans de Shaitan. Shaitan qui nous attire vers le péché, vers la désobéissance envers Allah, par le biais de bienfaits qui sont là tout de suite, palpables. Le plaisir immédiat. Alors qu'Allah, Azza wa Jal, il nous fait targhib, il nous encourage à suivre le droit chemin en nous promettant ce qui n'est pas visible, ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucun oreille jamais entendu, ni même wala khatara ala qalbi bashar, ni aucun cœur ne peut imaginer. Allah vous invite via ce que vous ne pouvez pas voir, ni entendre, ni imaginer. Mais il vous dit que ça c'est haqq. Fais les bonnes actions, tu auras ça un jour pour l'éternité. Alors que Shaitan dit, tu profites d'un bienfait tout de suite. Tu sais c'est quoi ce madja, ce plaisir, tu l'as immédiatement. C'est un dilemme difficile entre le plaisir immédiat et un plaisir promis qui aura lieu peut-être dans 1000, 2000, 3 millions d'années. Allah seul le sait. Et quand le mu'min suit ce qu'Allah lui demande, il a fait le bon choix. Allah est satisfait de lui. Et ça peut dépasser beaucoup de bonnes actions. Quand tu as un dilemme entre le bien et le mal, tu obéis à Allah. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle la taqwa. Ça s'appelle la taqwa. C'est la piété. C'est ça la taqwa. C'est choisir l'obéissance envers Allah, même dans les moments difficiles. J'ai pris un exemple gentil, tranquille. Se réveiller pour Fajr. Maintenant, il y a multiples exemples de la vie. Proposition indécente d'une belle et jeune fille, une collègue, qui me fait des clins d'œil tous les matins et qui commence à me percer le cœur et qui me fait une avance claire avec une proposition sans engagement, comme les nouvelles trucs de téléphone sans engagement, d'accord, plaisir immédiat yani. Mais et je sais c'est quoi ce plaisir immédiat, d'accord, mais je sais également qu'Allah est au-dessus de moi. Dilemme terrible, dilemme. Je sais que je suis mu'min et ainsi de suite. Maintenant, parenthèse, dans cette parenthèse, ce même croyant, regardez, hein, ce même croyant qui au moment où il a ce dilemme pour Salat al-Fajr ou face au zina, à l'adultère, s'il vit en ce moment une épreuve, s'il vit en ce moment une épreuve où il a besoin d'Allah pour trouver la solution, l'ouverture. Exemple, il a fait des analyses de sang. Il sait qu'il a un problème. Il fait des analyses et le docteur dit que, je donne un exemple, hein, on suspecte une tumeur ou un problème de cancer ou autre chose, l'analyse ou les résultats du scan ou du RM sera parlant, hein, va donner des indications si vous avez un cancer, oui ou non. Il sait qu'il doit avoir les résultats dans 3 jours. Je vous assure, durant ces 3 jours, il sera l'homme le plus pieux. Et quand il aura le dilemme, quel que soit le cas de figure, soit la prière de Fajr ou face à l'adultère, il va obéir à Allah. Parce qu'il sait que là, il a grandement besoin d'Allah. Ça, c'est une petite parenthèse. Et nous avons tous vécu ce genre de situation. Tout le monde, tout le monde. Sauf ceux qui sont petits, des enfants. Que même quand on a passé notre bac, même si ça remonte, hein, passer notre bac, passer un examen, déposer un CV pour obtenir un travail, ou ainsi de suite, quelle que soit la situation, passer le PMI, quand on attend un résultat et qu'on a fait doigt, pendant ce laps de temps, on est réglo, on est comme un ange. On contrôle le regard, on contrôle les oreilles, il fait pas n'importe quoi, les masjid, il est là, il fait salam tout le monde, etc. Mashallah, l'homme, le gendre idéal, le croyant idéal aussi. Mais après, quand il y a l'ouverture, on remercie Allah et après on va le fêter. On va faire n'importe quoi ou on revient vers nos mauvaises habitudes. Et ça, c'est une petite parenthèse, mais qu'on retienne bien ces leçons. Hein, que le croyant doit agir avec Allah. Il doit, subhanallah, sa relation avec Allah doit être le même tout le temps, constant. Et non pas en fonction de ses besoins. Donc, ce croyant, revenir, chacun se retrouve le fil. Ce croyant qui a du mal à se concentrer dans la salat, c'est que son cœur ne pense pas à Allah régulièrement. Il n'y a pas de dhikr. Et deuxièmement, c'est que le cœur n'a pas l'habitude de prendre conscience qu'Allah l'observe. Il n'y a pas le muraqabatullah dans son cœur. Et troisième raison qui fait qu'on ne trouve pas la concentration dans la salat, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'on lit. Et ça, c'était un gros problème. Et notre frère ici présent nous avait montrer un ouvrage, cette fois, qui a été écrit à l'île Maurice, ça non je sais pas c'est qui, un savant. Il a traduit toutes les formules de la salat. Depuis Allahu Akbar jusqu'à Salam alaykoum wa rahmatullah. Il m'a prêté, je ne l'ai jamais rendu. C'est possible que je ne le rends pas non plus. Et je trouve ça super, mashallah. Bon, c'est en créole mauricien, on ne dit rien. D'accord. Mais ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'avec ce genre d'ouvrage, d'accord, ben on connaît c'est quoi Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-Azim, Sami'a Allahu liman hamidahu, hamidah Rabbana wa lakal hamd, at-tahiyatu lillahi was-salam. C'est bien de savoir tout ça. Parce que si on sait qu'est-ce qu'on lit dans la salat, ben on comprend, on a la concentration. Ça c'est logique ça. Et maintenant, pour la lecture des ayats du Coran, que ce soit le Fatiha ou les versets, subhanallah, avec la compréhension des versets, assurément, comme on a dit en introduction, il y aura, incha'Allah, la concentration dans la salat. Ça, c'est les fawa'id adida, tous les avantages qu'il y a à écouter le tafsir, à étudier le tafsir de la parole d'Allah Azza wa Jal. En plus du fait que, en s'asseyant dans ce genre de majlis, ou n'importe quel majlis, on va parler du din d'Allah Azza wa Jal, les malaïkas sont présents, les malaïkas rapportent les noms des personnes présentes auprès d'Allah Azza wa Jal, les péchés sont pardonnés à l'issue de l'assemblée. Regardez le cadeau qu'Allah nous accorde. Et selon certaines sources, c'est une riwayat, si je ne me trompe pas, d'Imam Ahmad, à vérifier, dans une autre source, il est même dit que les péchés sont transformés en bonnes actions. Ajib ça. Tous ces cadeaux qu'Allah accorde parce que des gens se sont mobilisés pour talabul ilm, pour apprendre le ilm, pour apprendre la science religieuse. Et si nous on est dans ce majlis ce soir, c'est tawfiq min Allah. C'est qu'Allah nous a choisi et on doit être reconnaissant de remercier Allah parce que là, on est en train de se remplir, je ne dis pas les poches, de se remplir le livret de bonnes actions avec énormément de hasanat. Et chaque créature et sera témoin, même l'endroit où on est en train de faire le durus sera témoin, incha'Allah, le jour des comptes de la bonne action qui a été faite sur son dos. Allahumma amin. Alors, idha shams kuwirat, c'est pas le premier surah qu'on étudie qui commence par idha shams ou idha sama. On a déjà vu At-Takwir, on a déjà vu Idha Sama Unfatarat, on a déjà vu Wassama Idha Tilburuj. Ces versets qui, au début, citent des créatures d'Allah Azza wa Jal et pas uniquement dans le but de faire le qassam. Parce qu'il y a des fois, Allah Azza wa Jal cite, vous vous rappelez, on avait dit ça dans les sourates d'avant, Allah fait le qassam par une créature, entre autres pour montrer l'importance de cette créature. Mais là, quand dans le sourate al-Takwir, il est cité 12 créatures d'Allah Azza wa Jal. Le soleil, les étoiles, les montagnes, les chamelles, les animaux, les mères, les êtres humains, la petite fille. D'accord, on va expliquer c'est pourquoi. Ensuite, il y a autre chose. Et le ciel est recité. On n'avait pas dit les cieux, le paradis, l'enfer. Et on parle également, il est cité également, les livrets d'action. Quand Allah Azza wa Jal cite ces points, ce n'est pas pour faire qassam cette fois-ci. Non, Allah Azza wa Jal cite ses créatures, d'accord, en expliquant quelle sera leur situation le jour de Qiyam. Le verset commence par Idha shamsu kuwirat, quand le soleil sera obscurci. Wa idha nujumun kadarat, et que les étoiles deviendront ternes. Deux versets. Wa idha jibalu suyirat, et les montagnes mises en marche. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, et les chamelles à terme négligées. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, les bêtes farouches rassemblées. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, et les mers allumées. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, et les âmes accouplées. Voilà, jusque là, jusqu'à avant, on va dire jusqu'à Waidan Nufusu, ce sont des choses que nous voyons autour de nous. Et là, ça fait appel à Iman bil Ghaib, à la foi en l'invisible. Parce que quand on parle du soleil, de la lune, des étoiles, de la terre et des mers, des cieux, ce sont des choses que nous voyons. Et ce sont des choses qui, de ce dunya, de ce monde, fonctionnent selon des lois physiques connues. Les montagnes, est-ce que les montagnes se déplacent? Non. Il y a le phénomène de tectonique des plaques où ça bouge un petit peu, mais il n'y a jamais eu qu'une montagne se déplace ou disparaît ou s'enfonce du tout. Quand on parle du soleil, est-ce qu'à un moment donné le soleil perd son intensité, sa lumière? Non, sauf qu'il y a une éclipse solaire, mais ça dure quoi, 5 minutes. Quand on parle des étoiles, déjà le concept d'étoiles c'est plus compliqué, est-ce que ça arrive que tout d'un coup on voit des étoiles se disperser? Non, bref. Ce sont des créatures, ce sont des choses que nous observons au quotidien et qui, selon nous, fonctionnent selon des lois physiques connues qui ne sortent pas de ces lois. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal cite ces mêmes choses que nous connaissons, le jour de Qiyama, chacune de ces créatures ont une fonction différente, ou alors la nature de ces créatures aura totalement changé pour aller parfois à l'encontre du but pour lequel ces créatures ont été créées de ce dunya. En commençant tout d'abord par Idha shamsu kuwirat, quand le soleil sera obscurci. On voit le paradoxe entre le mot soleil et obscurci. Le soleil, c'est par excellence l'astre qui amène bidnillah la lumière sur la terre. Et vous vous rappelez, dans d'autres versets, on avait vu que s'il n'y avait pas le soleil, aucune forme de vie n'existerait sur la terre. Et si Allah n'alternait pas non plus entre soleil, c'est-à-dire matin et soir, aucune forme de vie non plus ne continuerait à exister sur terre. Donc l'alternance entre le jour et la nuit, présence de soleil et mouvement du soleil dans d'autres endroits pour qu'il y ait l'obscurité, ça permet à la vie de se développer. D'accord ? Maintenant, ce soleil, Allah Azza wa Jalla nous décrit que le soleil va s'obscurcir. Et kouwirat, le mot takwir, c'est tafsir, jam'u shay ba'dahu ila ba'd. C'est quand on réunit, on rassemble quelque chose, et c'est également le sens de tourner quelque chose. Quand on parle de al-amam, le turban qu'on met sur la tête, on parle du terme takwir. Le fait de tourner le turban autour de la tête quand on le met, ça s'appelle également takwir, le tourner autour donc de la tête pour le poser. Il dit que le commentaire, il dit que yukawwiruha Allahu Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, et Allah seul sait de quelle façon il va le faire, va tourner le soleil, va l'envelopper, wa yutwi ba'daha ala ba'd. Allah Azza wa Jal va faire en sorte que le soleil soit replié sur lui-même, fayadhhabu nuruha, et sa lumière va disparaître. وَيُلْقِيهَا عَزَّ وَجَلَّ فِي النَّارِ, et Allah Azza wa Jal va prendre ce soleil et va le jeter dans le feu de l'enfer. Ça, c'est le jour du Qiyam. Le soleil va être retourné, enveloppé sur lui-même. C'est comme si on prend quelque chose, qu'on l'écrase dans tous les sens, et Allah va le jeter dans le Jahannam, parce qu'Allah Azza wa Jal avait promis إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمْ, que ceux, que les choses qui étaient adorées en dehors d'Allah iront avec, en ce sens, avec leurs adorateurs dans le Jahannam, pour que ce soit une plus grande humiliation pour ces gens. Et vous savez qu'il y a eu des époques où des gens adoraient le soleil, oui ou non? D'accord? Donc, ihanatan lahum, pour que ce soit une plus grande humiliation et certainement plus de azab encore pour eux, le soleil même sera jeté dans le feu du Jahannam. Et ça nous ramène vers plusieurs pistes de réflexion et plusieurs leçons à retenir. Déjà, sur la superficie du Jahannam. Pourquoi est-ce que ce verset, cette explication, nous donne une indication sur la grandeur, la superficie du Jahannam? Connaissez la grandeur du soleil? Est-ce qu'on peut comparer la planète Terre avec le soleil? Non, c'est quand vous voyez des représentations de livres de physique, etc. Le soleil, c'est un petit truc, la planète Terre, c'est minuscule par rapport au soleil, qui est gigantesque, d'accord? Mais ce soleil sera pris et jeté dans le Jahannam. Ce qui prouve déjà que le Jahannam, c'est quelque chose de gigantesque. Si on nous avait dit que le Jahannam est grand comme un soleil, on aurait déjà eu peur. Grand comme l'astre du soleil qui éclaire la terre, qui éclaire, etc., etc. Ben non, rien du tout. Au contraire, le Jahannam, c'est le soleil, c'est rien ça. Le soleil, on le prend et il sera jeté. Allah le prend et il sera jeté dans le Jahannam. Déjà, ça nous donne une indication sur l'étendue, la grandeur du Jahannam, qu'Allah nous en protège. Ça nous donne également une indication, une confirmation sur le fait que le jour de Qiyamah, les lois physiques de la terre ne seront plus les lois physiques de ce dunya. De ce dunya, il y a des lois physiques bien connues, mais le jour des comptes dans l'au-delà, à partir du moment où on passe au monde de l'au-delà, les lois physiques du dunya n'existent plus. Si Allah décide que le soleil n'éclaire plus, ben le soleil n'éclairera plus. Ça nous montre également la qudra d'Allah Azza wa Jal. Si on demande à un homme, un être humain, le plus riche, le plus grand président, le plus grand roi de je sais pas quelle contrée, on lui dit « Arrête-moi ce rayon de soleil. » Ou alors « Prends-le. Amène-moi un rayon de soleil. » Dis que c'est des choses impossibles. Dis-moi, demande-moi, je te signe un chèque de 10 millions de dollars si tu veux. Tu veux un milliard, je te signe, il n'y a pas de problème. Mais ne me demande pas de t'amener un rayon de soleil, tu es malade. C'est pas possible ça. Qui peut le faire? Oui, effectivement, personne ne peut le faire. Allah, le créateur du soleil, entre autres, subhanallah, Rabbul Alamin, il prend ce soleil. Pas un rayon, il prend le soleil en entier et Allah Azza wa Jal le jette dans le Jahannam. Maintenant, quand on sait la température du soleil, ça prouve également qu'Allah Azza wa Jal, subhanallah, ce soleil, cette puissance qui émane du soleil pour Allah, ça c'est rien du tout. Allah le prend et le jette dans le Jahannam. Que dire de nous? Si le soleil avec cette force, si quelqu'un regarde le soleil directement dans quelques secondes, il se brûle la rétine, il ne peut pas. La force de cette créature d'Allah Azza wa Jalla, Allah le prend comme si de rien n'était, Allah l'atténue complètement de toute sa lumière et le jette Jahannam. Ça montre également la puissance, la qudra d'Allah Azza wa Jalla. Ça nous fait comprendre également que la température du Jahannam est beaucoup plus intense que la température du soleil. C'est quoi la température du soleil? Quelqu'un connaît? Il y a ça dans les livres de physique, combien de millions de... Hein? C'est par des millions de degrés ça. Le Jahannam est plus fort encore. Parce que le soleil il est mis dans le Jahannam et ça ne fait rien du tout. La température du Jahannam est encore supérieure. Ça nous fait comprendre également que le jour de Qiyamah, il y a plusieurs étapes. Et en fonction de ces étapes, Allah peut donner une fonction à une créature et changer cette fonction plus tard. Lors de la résurrection, lors du mahshar, la fonction du soleil, c'est quoi? C'est ta'zib. Allah utilise le soleil pour éprouver les gens. Connaissez le hadith que le soleil sera au-dessus de la tête des gens. Et avec cette chaleur, il y a des personnes qui vont transpirer jusqu'à ce que la transpiration arrive au niveau de la cheville, d'autres au mollet, au genou, à la taille, et ainsi de suite, en fonction de la richesse, de la pauvreté, du pouvoir d'achat, du PIB par personne ressuscitée, du PNB par personne décédée, là, wallah, en fonction des péchés, mes chers frères et sœurs, en fonction des péchés qu'on a fait sur cette dunya. Il a également, parenthèse, les savants disent, voyez les lois physiques, la terre du mahshar est une terre plate. La tara fiha iwajan wala amta. On avait déjà expliqué ça avant. La terre de la résurrection, elle est plate, c'est une plaine. Si je prends ce verre d'eau, je verse sur un endroit régulier. L'eau va s'étendre. C'est pas possible que si je verse l'eau reste comme ça, et d'un endroit, il y a un petit peu. Non. Alors que dans le mahshar, il y aura des gens qui seront dans des endroits proches ou éloignés. Certains auront l'eau à ce niveau, d'autres à ce niveau, d'autres plus haut, d'autres qui vont être presque noyés de la transpiration. Ça prouve que les lois physiques du dunya ne sont plus, ce sont plus les lois du akhira. Et donc, dans la première étape de l'au-delà, le soleil est utilisé comme moyen de persécution, d'épreuve pour les gens et principalement pour ceux qui ont fait des péchés de ce dunya. Et dans l'étape d'ensuite, après on pourrait conclure, donc c'est après la résurrection, après cette étape-là, là Allah Azza wa Jal prend le soleil et l'envoie, le jette définitivement dans le Jahannam. Hada. Les savants disent également, subhanallah, voyez la puissance de ce soleil, de ce dunya. Tout ça, pourquoi on parle de ça? C'est pour qu'on réalise la qudra et la puissance d'Allah Azza wa Jal. Quand on parle de la disparition de la couche d'ozone qui fait que les UV du soleil arrivent de manière plus intense et plus violente sur ce monde, et à cause de ça, il y a plein de problèmes, il y a des sécheresses, il y a des problèmes divers, entre autres, on parle du réchauffement climatique, d'accord? Tout ça parce qu'il y a un peu plus de luminosité qu'avant. Le soleil est plus fort. Les températures augmentent. D'accord? Et donc, un petit décalage de température, ça peut faire noyer, couler des îles, etc., et ainsi de suite, monter le niveau des mers. Mais ce soleil, avec cette force, cette chaleur qu'elle dégage, pour Allah, c'est rien. Et Allah le prend et Allah le jette dans le Jahannam avec grande facilité parce que Allah, il est Al-Qawi. Allah, il est Al-Azim, et toutes les créatures sont sous l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est une des choses qu'on va voir le jour de Qiyama, le premier donc verset de At-Takwir, quand le soleil sera obscurci. Wa idan nujumun kadarat, et que les étoiles deviendront ternes. Et ça, alors quand il s'agit d'un verset qui a déjà été commenté dans d'autres sourates du même style, on va pas répéter le tafsir. Bien que le jour de Qiyama, les étoiles vont se disperser. Les étoiles vont se disperser et يوم القيامة تتناثر وتزول عن أماكنها. Donc les étoiles vont se disperser, voilà, et vont également devenir ternes. Les étoiles qu'on voit brillantes, le jour de Qiyama également, ces étoiles vont devenir ternes. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. Là, on regarde Ibn Kathir, parce que ce tafsir ne donne pas de commentaire, on va dire, très satisfaisant sur وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ أَيْ زَالَتْ عَنْ أَمَاكِنِهَا وَنُسِفَتْ. Il dit que les montagnes vont être bougées, vont être anéanties et aplani complètement. Donc disparition également de tout ça, des montagnes. Chose qui nous parle un peu plus. Waïdal, Isharu Utilat, et les chamelles à terme négligées. Ça nécessite un petit commentaire. Al-Ishar, c'est la chamelle qui est pleine, donc la chamelle qui attend un petit, et qui en est à 10 mois de gestation. Enfin, je ne sais pas, une chamelle donne naissance au bout de combien de mois. Mais le terme Ishar, c'est la chamelle qui est pleine, la chamelle qui attend un petit et qui en est à 10 mois. Et chez les Arabes, cet animal, parmi tous les chameaux, c'est l'animal qui a le plus de valeur. Ça prouve également la richesse de la langue arabe. Chameau, ça ne se dit pas que Jamal. Il y a Jamal, il y a Naqa, il y a Ibil, il y a Ishar, il y a tellement de termes, subhanallah, pour désigner le chameau, selon l'âge, la situation, l'état, et ainsi de suite. Bref, donc la chamelle qui attend un petit et qui en est à 10 mois de gestation, pour les Arabes, cet animal-là a un prix extraordinaire. C'est une richesse. Il dit que donc, et les chamelles à terme négligées. Et en commentaire, les Mufassirin disent que, regardez, ce genre d'animal, comment avait de la valeur pour l'être humain de ce dunya. C'était considéré comme la meilleure des richesses qu'un homme pouvait avoir. Mais le jour de Qiyama, là, qu'il n'a fait l'akhirati, le jour de Qiyama, c'est bien non plus aucune valeur, ne présente plus aucun intérêt, parce qu'en ce jour, les gens oublient absolument tout, que ce soit les biens, mais également les enfants, la famille, tout ce qui nous était cher dans ce dunya, toutes ces choses pour lesquelles parfois on se séparait, on désobéissait à Allah, on faisait des péchés pour pouvoir obtenir, augmenter encore plus ces choses, le jour de Qiyama, ces choses-là n'ont plus aucune valeur. Et quand on parle des chamelles, on pourrait, par analogie, pour comprendre notre situation actuelle, hein, on pourrait dire les biens que l'homme aime le plus à notre époque, quelles que soient les époques, ben, cette chose qu'on aimait le plus, d'accord, le jour de Qiyama, même si on la voit, parce que les animaux seront ressuscités également, on va voir dans d'autres versets, ça ne représente plus aucune valeur. Parce que lorsque l'homme a vu les premières secondes du Qiyam, de l'au-delà, cet homme n'a plus le même cœur. Cet homme n'a plus du tout les mêmes pensées, les mêmes objectifs. Il comprend que tout ce qu'il a pu cumuler, il a pu faire, tout ce qu'il a pu ramener, tout ce qu'il a pu faire, pas ramener, il a pu faire et laisser de ce dunya, n'a plus aucun intérêt. Et la seule chose qui le préoccupe, c'est la décision qu'Allah va prendre qui le concerne. Est-ce qu'Allah va être satisfait de lui, va lui accorder le Jannah, ou alors Allah Azza wa Jal va être mécontent de lui et va l'envoyer dans le Jahannam. Donc, même la chamelle, hein, qui a cette valeur, ne sera abandonnée, n'aura plus aucun intérêt, plus personne ne pensera à regarder le jour de Qiyam. On pose cette question également à nos jeunes, peut-être même les moins jeunes. Hein. Quand on voyait une jolie fille, une jolie femme dans la rue, etc., et qu'on se dit que waouh, ça c'est quelqu'un, ça c'est quelqu'un, allez, machin, et ainsi de suite. D'accord, pensez juste que le jour de Qiyama, tout ce qui est plus beau, qui a le plus de valeur, n'aura plus aucun intérêt. Plus personne ne voudra regarder. Hein, et quand vous passez 12 fois par jour, hein, vous allez sourire, vous passez 12 fois par jour devant les grandes, comment on appelle ça, les grandes affiches publicitaires de 10 mètres de Océanorme, je sais pas quoi, où il y a 4 madames, 4 Miss Réunion et tout, je sais pas quoi, et tout le monde, on voyait ça 10 fois, à un moment donné, votre cerveau, il connaît ces dames par cœur, comme si qui habite côté de la case. D'accord? Et chaque fois, il dit, waouh, t'es, hein, dit que tu m'avais 4 madames comme ça, d'autres, ils pensent que, et ainsi de suite, c'est des houdes du paradis. Bref, tout ça. Vous voyez des personnes qui sont magnifiques, qui sont ainsi de suite, pensez que ce qui était le plus cher pour un homme de ce dunya, la même chose, il voit le jour de Qiyama, ça n'a plus aucun intérêt. Pensez une seconde, et là, une comparaison, hein, il n'y a pas de quoi comparer. Vous êtes dans l'attente, on revient à l'exemple de problèmes de santé, d'épreuves, vous êtes dans l'attente d'un résultat de scanner ou d'IRM ou autre chose, d'accord? Vous avez passé l'examen, la radio, d'accord? Et vous attendez, il vous dit, monsieur, asseyez-vous, patientez, on fait les images, et dans 5 minutes, le radiologue vous appelle pour vous faire une lecture du scanner, par exemple, d'accord? Ces 5 minutes-là, mes chers frères et sœurs, ce sont les 5 minutes les plus longues de notre vie, les plus angoissantes. Parce qu'on sait que il est 8h30, à 8h35, le radiologue va me dire combien de temps il me reste à vivre. Ou alors, est-ce que je vais devoir démarrer radiothérapie, une chimiothérapie? Est-ce que ma vie va basculer? Ou alors, je vais continuer à vivre tranquillement? Dans 5 minutes, j'aurai le résultat. Vous angoissez, vous stressez, votre tension il monte, il baisse, votre taux de sucre il monte, il sonne, vous pensez à tout. Est-ce que à ce moment-là, de ce petit laps de temps, dans la salle d'attente, la Miss Réunion arrive, la vraie, elle débarque comme dans une publicité Océan d'Or, c'est elle avec la couronne. Il débarque, il a venu faire un petit examen lui aussi. Est-ce qu'on va l'admirer? Non, you have cap cap, my brother. Tu as peur là, tu attends les résultats. Tu angoisses, tu stresses. Personne ne pensera à regarder cette jolie femme ou autre chose. Ou même, autre cas de figure, vous êtes en train d'attendre et vous avez une vue sur l'extérieur, il y a une superbe Mercedes ML, je ne sais pas quoi il passe, et ça vous fait vibrer en temps normal. Est-ce que vous allez vous lever et dire « Waouh, deux pots d'échappement, regarde son jambe, regarde son bec arrière, etc. » Ah, bedden, vous êtes dans l'angoisse. Juste une petite comparaison pour qu'on comprenne que dans l'au-delà, toutes les choses qui nous étaient chères de ce dunya, on peut les cumuler, les amasser, les mettre à côté de nous, plus personne n'a envie de les regarder. Même votre propre femme, maintenant on parle de choses plus sérieuses, même vos parents, subhanallah, qu'est-ce que les parents représentent pour nous? Même vos enfants, qu'est-ce que les enfants représentent pour nous? Regardez notre frère Anwar, comment il est fier. Son fils a eu son bac, son fils a gagné son permis, sur Facebook m'a appris tout ça, toute son vie sur Facebook, d'accord? Et ainsi de suite. Un papa est content quand son enfant y avance. Mon garçon a gagné sur l'examen, il passe au PMI, d'accord? On regarde notre frère, Mashallah, Qassam, son garçon Abdullah, s'est marié il y a 2 mois et demi, 3 mois. Il va voir les titres, c'est top, hein, jazakallah khair. Et un papa est fier, il est content. Et on aime voir nos enfants avancer. Que Mashallah, il est content, il a son travail, il a un appartement, et Mashallah, son épouse attend un bébé, maintenant il est papa, et Alhamdulillah, ça c'est naturel, ça c'est insan, ça. On aime voir nos enfants heureux, on donnerait tout pour nos enfants, oui ou non? Tout, on serait prêt à donner notre vie si Allah protège. Un médecin vous dit que votre enfant a un problème de rein, ses reins ne fonctionnent plus, il a besoin de quelqu'un qui donne un rein, et il faut que ce soit compatible, et sinon on est compatible et que l'enfant est en âge d'être opéré, quel est ce père qui ne se porterait pas volontaire? Dites-moi, jamais un papa il sait qu'il peut sauver la vie de son enfant, il dit docteur tout de suite, moi je rentre au bloc tout de suite, je lui donne un rein, je vis avec un rein, alors j'ai déjà 40 ans, 45 ans, 50 ans, c'est pas grave. Ça, c'est mon fils, ça. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est ma vie, ça. Ça, c'est mon sang. Ça, c'est mon espoir, subhanallah. Oui ou non? Ça, c'est l'amour d'un père pour son fils. Si seulement les enfants savaient comment leurs parents, les parents les aimaient. Allah Akbar. Si seulement les enfants, les jeunes, les adolescents savaient comment ils comptent pour leurs parents, même si les parents ne le font pas trop voir, ne manifeste pas cet amour, mais comment des parents aiment leurs enfants? Si les enfants le savaient, jamais ils ne feraient preuve d'ingratitude, jamais ils ne manqueraient de respect à leurs parents, jamais ils ne défieraient les parents du regard, ou ils reviendraient sur leurs décisions, et ainsi de suite. Allahu Akbar. Malgré cet amour intense qu'il y a entre un papa, une maman pour son enfant, et vice versa, le jour de Qiyama, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Allahu Akbar. Le jour où, yawm c'est yawm al-qiyam, le jour de qiyam, donc en ce jour où la personne, j'ai pas la traduction exacte, va s'enfuir, il voudra même pas voir son frère, ni sa maman, ni son papa, ni personne, ni ses enfants, wala ahad, personne. Pourquoi? Parce que لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني, parce que chaque personne a يومئذ, en ce jour, quelque chose qui le préoccupe. Et quelle est cette chose qui le préoccupe? Dans le hadith, on avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont donc ces choses qui vont préoccuper les gens le jour de Qiyam? Le prophète avait cité entre autres que la préparation des livrets d'action, نشر الصحف, lorsque les gens voient les livrets des actions hasanat, sayyiat, qui sont en train d'être préparés pour être remis aux gens, là la personne a peur, la personne angoisse. Revenons vers notre métaphore, notre exemple pardon, tout à l'heure. Vous êtes dans cette salle, d'accord? Vous attendez, vous êtes 10 personnes, vous avez fait chacun un scanner, et le radiologue a imprimé 10 résultats, et il arrive dans la salle avec 10 enveloppes, 10 feuilles, il est en train de préparer, mettre les feuilles des enveloppes et écrire les noms. Vous voyez ça, vous avez les yeux rivés sur les papiers, sur ce qu'il est en train d'écrire, vous attendez quand il vous remet pour savoir comment je vais vivre mes 10 prochaines années. Alors que quand les livrets d'action sont prêts à être remis aux gens, les gens sont tellement angoissés, pas parce que c'est les années qui vont venir et qui vont être capitales pour lui, c'est pour l'éternité. Est-ce que je vais dans le Jahannam? et le Jahannam, j'en ai entendu parler, et plus encore, je viens le voir, parce qu'Allah Azza wa Jal va présenter le Jahannam à la création le jour de Qiyama, à l'humanité. Ou alors le paradis, est-ce que je vais obtenir ces bienfaits extraordinaires du paradis? Voyez donc l'état d'angoisse, de stress de la personne, c'est tout ça, entre autres, c'est ça qui fait que plus personne ne pense à regarder à son papa, à sa maman, ses proches, ou même son épouse, ou ses enfants. On va s'arrêter à là, Inch'Allah, on a fait 40 minutes. Donc mes chers frères et sœurs, on a vu ce soir quelques versets, on a vu exactement 4 versets, quatre versets de Sourate Takwir, dans lesquels on a expliqué la situation des créatures que nous voyons au quotidien, soleil, étoiles, montagnes, et on parle de chamelles, et par analogie, on pourrait comparer avec tous les biens qui nous intéressent. Comment seront ces créatures le jour de Qiyama? La force du soleil, elle disparaîtra par ordre d'Allah, après qu'Allah aura utilisé cette force pour éprouver les gens. Allah va jeter le soleil dans le Jahannam. Les étoiles, aussi beaux qu'ils soient, les étoiles n'auront plus aucune lumière et ils vont se disperser. Les montagnes vont bouger, s'aplatir. Tout ce qui est intéressant, tout ce qui, subhanallah, fait bouger les cœurs des gens, les biens de ce monde n'auront plus aucune utilité alors qu'ils seront à côté des gens, ils seront visibles. Ça, c'est les situations du Qiyam. Et ce qu'on doit essayer de retenir ce soir, c'est le dernier verset, lorsqu'on voit que les choses qui nous tiennent le plus à cœur n'auront plus aucune valeur. Et c'est Allah Azza wa Jal, subhanallah, a choisi Al-Ishar, la chamelle pleine, c'est que c'était vraiment la chose que les Arabes aimaient le plus. Jamais ils n'échangeraient ça contre quelque chose d'autre, contre un autre bien. Donc, par analogie, tout ce qui nous est cher, dans ce dunya, on bouge pour ces choses-là. Le jour de Qiyama, ces choses-là n'auront plus aucune valeur. Pourquoi? Parce que les gens seront préoccupés par ce qu'ils sont en train de voir et par les actions, les livrets d'actions qui vont être remis, et être préoccupés par la décision qu'Allah Azza wa Jal va prendre les concernant. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, pour comprendre, méditer sur le sens de ces versets, pour que la réalité de Al-Yawm Al-Akhir, de l'au-delà, entre dans nos cœurs. Vous savez, plus on va également étudier les versets qui parlent de la, des situations de, le jour de Qiyama, ça va augmenter notre iman en Allah. Pourquoi? Parce que quand on est réellement conscient de l'au-delà, on prend vraiment conscience de l'importance des bonnes actions qu'on accomplit. Et ça, on le dit tout le temps. Tant que le croyant ne sera pas fait à la relation entre les actions qu'il accomplit au quotidien et le dénouement, le jour de Qiyama, il n'aura aucune motivation à continuer à faire de bonnes œuvres ou à s'éloigner de manière définitive des péchés. Tant que je ne vais pas réaliser que la salat que j'accomplis là, le jour de Qiyama, Allah va m'accorder telle chose, je n'aurai pas la motivation pour faire la salat. Tant que je n'aurai pas réalisé que cette chose qui est haram a telle conséquence au jour de Qiyama, je ne pourrai pas l'arrêter à long terme. D'où l'importance de connaître les situations, les étapes, les descriptions du Qiyama. Ça nous permettra de réaliser réellement que chaque action que j'accomplis, et bonne action, et chaque péché que je néglige, subhanallah, et que je m'en éloigne, le jour de Qiyama, il y aura un résultat. Donc ça nous donne une motivation pour les bonnes œuvres. Qu'Allah nous accepte d'un tawfiq de comprendre et de propager à nos mères et à nos soeurs. Inch'Allah, donc vendredi prochain, on va continuer les versets de At-Takwir et on essaie au maximum d'être réguliers dans nos programmes. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.